Une salutation toute particulière pour les mamans, pour les grands-mamans, pour les mamans d'adoption ou les grands-mamans d'adoption. Que le Seigneur vous bénisse en cette journée particulière. C'est tout un rythme hein, que d'être une maman. Et des fois, les mamans peuvent se sentir débordées parce que on apprend qu'on on prend en charge les autres. Hein. Quand on a, avant d'avoir des enfants, on pense à soi-même, on pense à ses affaires, on pense à apprendre à ne pas oublier sa sacoche. Quand vous avez des enfants, vous pensez à ce qui n'oublie pas son cartable. Vous vous occupez de vos chaussettes quand vous êtes seul, mais quand vous avez des enfants, vous occupez des chaussettes, voilà, pour pas qu'ils partent plus à l'école, quoi. Et on peut multiplier un petit peu tous ces exemples où il y a cette charge mentale de s'occuper, de veiller, de surveiller, d'être sûr. Et même s'il y a tout un apprentissage vers l'autonomie, eh bien, ça se construit et ça ne se fait pas tout seul. Et on parle hein, aujourd'hui du burn-out parental, du burn-out maternel en particulier, mais paternel aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut se sentir submergé, on peut vraiment avoir le sentiment d'être dépassé, de ne pas parvenir à répondre aux attentes, aux besoins, de ne pas être à la hauteur. Difficulté parce qu'il n'y a pas de coupure. Quand on a des enfants, vous ne pouvez pas, comme un film, mettre sur pause et dire « je reprendrai demain ». Alors on essaye de les mettre au lit peut-être suffisamment tôt, mais malheureusement, c'est qu'on ne comprend pas toujours aussi rapidement que ce qu'on souhaiterait, etc. Parfois, on peut les envoyer en vacances chez les grands-parents peut-être, ou en colonie, et ça fait un souffle. Je suis bien placé pour savoir que beaucoup de parents sont très heureux quand les vacances se terminent. Parce que les enfants retournent à l'école et là ils font « youpi !» Parce que les gérer pendant 15 jours ou 2 mois pendant les grandes vacances, c'est énorme. Hein. Voilà. Voilà un petit peu une introduction pour un sujet plus général, qui est un rythme sain pour une église en forme. Et ça commence dans les foyers. Ça commence, maman, ça commence par les papas, d'avoir un rythme sain pour pouvoir avoir une santé spirituelle et un ministère déjà familial, puis dans l'église et autour de soi, dans le monde, équilibré et sain. Un rythme sain pour une église en forme. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible en Exode au chapitre 18. Exode chapitre 18. Nous retrouvons notre héros, Moïse. Moïse qui a passé donc du temps en Madian, après avoir été, après s'être sauvé d'Égypte, vous vous souvenez qu'il avait tué l'Égyptien, après avoir grandi à la cour de Pharaon, et il s'est sauvé. Et là-bas, il a rencontré une famille, la famille de Jéthro, dont il a épousé La fille s'efforcera. Les années ont passé et le Seigneur l'a envoyé délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Et voilà que Moïse a donc quitté son foyer pour aller en Égypte. Et nous apprenons dans ce chapitre 18 qu'il n'y est pas allé avec sa femme et ses deux fils. Il les a confiés aux soins de la famille. Il l'a renvoyé chez son père, Jéthro. Et donc, Séphora et les deux enfants sont retournés chez le grand-père, en quelque sorte, pendant que Moïse, lui, est allé en Égypte avec toute cette série des 10 plaies d'Égypte, et puis de la fuite de l'Égypte, de la traversée de la mer Rouge et de l'arrivée dans le désert. Et donc, après plusieurs mois, sans doute, sans sa famille, alors que Moïse vient de vivre des choses éprouvantes, contraignantes, ici, et le voilà en plein désert, près de la montagne du Sinaï, ils arrivent au Sinaï et il a plusieurs millions de personnes qui vivent ensemble en communauté, une communauté en exil, en exode. Et il faut pouvoir administrer, gouverner, ne pas laisser l'anarchie s'installer. Il faut pouvoir être proche des besoins des uns et des autres. Il faut pouvoir prêter une oreille. Et c'est ce que Moïse tâche de faire. Et voilà que son beau-père, Jéthro, arrive. Jéthro ne connaît pas le Dieu d'Israël, mais apprend à le connaître au travers de Moïse, apprend à le connaître au travers de tout ce qui s'est passé en Égypte. Et le cœur de Jéthro s'approche de Dieu et le reconnaît comme le Dieu au-dessus des dieux. Parallèlement à son parcours de, je dirais, religieux et de foi vers le Dieu d'Israël, c'est un homme plein d'expérience et plein de bon sens. Et nous allons donc lire ce qui se passe dans ce chapitre lorsqu'il arrive sur place, qu'il examine la situation et il se rend compte que quelque chose ne va pas. Lisons ensemble. Exode 18. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Guershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux, je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toute importance et qu'ils pensent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Et il les établit chef du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Il jugeait le peuple en tout temps, il portait devant Moïse les affaires difficiles et il prononçait eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Voilà. Dieu a utilisé le beau-père de Moïse, Jéthro, pour éviter à Moïse qu'aujourd'hui on appelle un burn-out, hein, c'est-à-dire un épuisement émotionnel, professionnel, une charge de travail trop grande pour lui. Et le terme qui est là, et donc c'est le seul texte à ma connaissance du corpus biblique qui parle de ce sujet, de cet équilibre, un rythme sain, hein, pour un peuple ici en forme. Le seul texte qui parle justement de cet équilibre dans les charges, dans les responsabilités qui sont portées, dans la gestion mentale, dans ce qu'on est capable ou pas. Et c'est exactement le terme qui est utilisé. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Alors, reprenons un petit peu la situation. Moïse est surbooké. Du matin au soir, il passe son temps à s'intéresser au peuple, aux gens. Qui ont des questions, qui ont des affaires, qui veulent connaître la pensée de Dieu, qui veulent, voilà. Et ils font la queue et ils tâchent de rencontrer Moïse, d'avoir son oreille, pour que Moïse puisse donner un conseil, donner un arbitrage, etc. Mais nous sommes avec plusieurs millions de personnes. On se dit, mais c'est invraisemblable, ce n'est pas possible. Et voilà que Moïse, qui est déjà surbooké, on a noté qu'il vivait comme un célibataire. Sauf qu'il y a le beau-père qui ramène la femme et les deux fils. Là. Alors, pauvre Moïse, qui est déjà surbooké, voilà-t-il pas qu'on lui ramène sa famille? Il va devoir reprendre ses responsabilités familiales qu'il avait laissées depuis plusieurs mois, peut-être quelques années, je ne sais pas en combien de temps s'est déroulé, hein, son départ pour l'Égypte, les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, etc., jusqu'au Sinaï. Mais ça veut dire que là, il s'était entre guillemets débarrassé d'une certaine charge, femme et enfant, et voilà, le temps est venu, hein, j'ai trop dit, bon, écoute mon gars, c'est peut-être temps de reprendre tes obligations familiales maintenant. Alors, imaginez déjà le travail qu'il avait. Comment est-ce qu'il va faire avec le retour de sa femme et de ses deux enfants envers des responsabilités? Ça va suggérer du temps passé avec eux et du temps de qualité. La question se pose, n'avait-il pas négligé sa famille assez longtemps? Ne l'avait-il pas négligé et ne tardait-il pas à la faire revenir? Nous voyons l'initiative de Jéthro qui arrive avec Séphora et les deux enfants. C'est pas l'initiative de Moïse. Hein. Peut-être Moïse, ça l'a arrangé qu'il reste encore un petit peu au pays là-bas. On se demande quand est-ce qu'il aurait envoyé un SMS pour les faire revenir. Manifestement, il était temps. Et on peut peut-être se poser la question, est-ce que Séphora elle-même n'était pas en train de saturer, n'était pas en train elle aussi d'arriver au bout, parce que ça faisait quand même plusieurs mois, peut-être un an, peut-être plus, que son cher mari était parti et elle devait faire le rôle du père, de la mère, de tout ça. Bien sûr, elle avait le grand-père, la famille derrière, mais c'est pas pareil, ça remplace pas un papa. Et elle devait tout gérer toute seule. Parce qu'il était au charbon, mais ailleurs. Bon. Voilà que il faut que Moïse retrouve maintenant, après un temps de séparation et de mission qui était exceptionnel, qu'il retrouve un équilibre familial. Mais il ne va pas pouvoir tout faire. Et ceux qui ont des familles, des enfants, un conjoint, mesurent, c'est aujourd'hui la fête des mères, ils savent très bien tout ce que ça représente. Comme travail, comme effort, comme vigilance, comme charge mentale. La parole de Dieu nous rappelle, en 1 Timothée 3:5, que la famille est le premier cercle dont Dieu nous demande de nous occuper avec soin. Parfois, on pourrait se dire, mais c'est d'abord l'Église qui compte. Pour que l'Église compte, il faut que la famille compte, avec équilibre. Mais regardez ce qui est dit à propos de ceux qui veulent, qui aspirent à la charge d'évêque, d'ancien, dans une Église, de pasteur. 1 Timothée 3:5 dit « Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, diriger, c'est-à-dire diriger, administrer, veiller, faire tourner. Comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et vous voyez le mot qui est ici, prendre soin de l'Église de Dieu. Il y a un parallèle dans ce passage d'un Timothée. Il s'agit que le père de famille puisse prendre soin de sa propre maison, et s'il sait prendre soin de sa propre maison, il pourra reproduire ce soin qu'il sait apporter dans son foyer, il pourra le reproduire dans l'Église et prendre soin de l'Église de Dieu. Mais si, comme Moïse à ce moment-là, Moïse apportait du soin et du soin et du soin au peuple. Il n'en apportait plus aucun à sa famille. Sa famille revient. Il va falloir qu'il reprenne un équilibre. Mais il ne pourra pas tout faire. Rappelons-nous que la première sphère que le Seigneur nous confie, c'est notre famille. Si le Seigneur nous a confié une famille, un conjoint, des enfants, des petits-enfants, nous devons déjà, dans cette sphère-là, prendre soin pour glorifier, honorer Dieu. Et si on le fait, alors, on sera dans quelque chose qui est sain, qui est harmonieux pour pouvoir prendre soin aussi d'autres personnes autour d'eux. On continue dans le texte, donc des petits focus. On voit donc que Moïse qui se tenait devant le peuple depuis le matin jusqu'au soir. C'était du non-stop. C'est souvent le sentiment que les mamans ont, ce non-stop. Même quand les enfants vont à l'école, les choses sont mal faites, il faut se dépêcher pour les amener à 8h30. Et malheureusement, si on ne les met pas à la cantine, 11h30, je vous garantis, arrive très très vite, très vite. C'est incroyable. On est revenu à la maison, il faut repartir. On a eu l'impression d'avoir à peine assez de temps devant soi. Et on se dit, bah, pourtant, elles ne travaillent pas, elles sont à la maison. C'est souvent une charge qui est négligée, hein, dans le regard extérieur, qui est mal appréciée. Et bien souvent, des mamans, même si elles n'ont pas un métier à côté, peuvent se sentir débordées avec plusieurs enfants, avec un mari aussi, et sont à pied d'œuvre depuis le matin jusqu'au soir. Notre rythme, et ça nous pose beaucoup plus de manière large la question de notre rythme et notamment dans notre manière de vivre occidentale, où il faut tout faire avec tout le monde tout de suite. Il y a des tas d'impératifs ou qui semblent impératifs. On est dans une société qui demande du rendement, de l'efficacité. Et donc, on est à droite, on est à gauche, et on essaye de tout faire. Ça, c'est aussi le cas en particulier des mamans qui travaillent à plein temps, peut-être à l'extérieur, et qui, en plus, ont quand même des enfants, etc. Et il faut alors là jongler avec le planning, surtout si on veut faire faire des activités à ses enfants et ne pas le négliger, et les traîner à droite et les traîner à gauche, et un coup chez le dentiste, et un coup à la musique, et un coup au tennis, et etc. et on passe son temps à faire le taxi. C'est très frustrant. Par chance, Moïse, je dirais qu'il passait du matin au soir devant le peuple à juger, mais il avait une chance, c'est que lui, il avait le sabbat. Parce que le sabbat, c'était un ordre impératif, impérieux, tu ne feras aucune œuvre servile. Dieu s'était reposé le septième jour. Et voilà une journée, ce sabbat, dans l'Ancien Testament, où l'on voit au-delà d'un commandement divin, un commandement qui vise à ce que l'être humain conserve un rythme qui lui permette de continuer avec une phase d'effort et de travail, mais une phase de relâche, décrochage, absolument nécessaire dans sa constitution psychologique, émotionnel, physique aussi, mais surtout psychique. Et donc, le fait de pouvoir décrocher est quelque chose d'important dans l'Ancien Testament. Quand est-ce que moi, dans ma vie, je décroche? Pas évident pour des parents, pas évident pour des mamans. Il ne s'agit pas d'utiliser son samedi ou son dimanche en disant, ah, j'ai pas mon travail, je vais pouvoir m'occuper des impôts, je vais pouvoir m'occuper des dossiers de demande de bourse, je vais pouvoir m'occuper de ce robinet que je n'ai jamais le temps de réparer, je vais pouvoir m'occuper, etc. Ça, c'est pas un sabbat. Et le sabbat consiste vraiment à un temps de repos spirituel, premièrement, se reposer en Dieu, se connecter à Dieu, trouver en lui le silence, trouver en lui la fin de l'agitation. Et puis, tout simplement, la deuxième perspective du sabbat, jouir tout simplement des dons, des bienfaits que Dieu donne. Dans une dimension où le travail, la notion du travail, de labeur, d'effort, se met en pause et s'interrompt. Voilà une chose importante à laquelle nous devons réfléchir parce qu'on a une tendance, notre société pousse à oublier ça. Et ce n'est pas forcément évident pour un Moïse responsable de tout ce peuple de pouvoir décrocher. Parce que même le jour du sabbat, il y a toujours des affaires et des histoires qui se passent. On peut se poser la question pour des responsables d'église, des pasteurs, quand est leur sabbat? Quand est leur période de décrochage? Moi-même, je me pose cette question en cumulant donc un travail séculier et des charges pastorales, je ne sais pas exactement où est mon sabbat. Et le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Voilà, il y a un constat à un moment dans notre rythme et charge de dire, j'ai des limite. Je ne peux pas tout faire et tout porter. Et il lui dit, c'est pas bien parce que tu vas, ça va avoir des conséquences néfastes sur toi, Moïse. Tu t'épuiseras toi-même. Alors, on peut aller jusqu'à voir la question hein, très concrète du burn-out, de cet épuisement qui touche 36% des Français. C'est beaucoup. Où, effectivement, la première personne le premier psychanalyste qui a analysé ça, dit « Je me suis rendu compte que des gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles, hein, le feu, l'incendie. Leurs ressources internes en viennent à se consumer sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Quand vous avez un bâtiment, des fois, tous les murs sont toujours là, ils sont noircis, mais alors l'intérieur tout a cramé. Eh bien, c'est un petit peu ce qui peut se passer avec des ressources psychiques, émotionnelles, intellectuelles qu'on met au service de son travail. Le burn-out touche en particulier les professions où il y a un vif engagement au service des autres. Au service des autres. Donc les deux métiers les plus touchés sont les enseignants et les soignants. Deux milieux essentiellement. Bon. Et pas que. Où finalement l'autre en tant qu'être humain est important. Où on s'intéresse à sa vie, où on va porter ses charges. C'est exactement ce que fait Moïse. Moïse est en train d'entrer dans la vie des gens pour dire, ok, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton litige? C'est quoi ton conflit? Ta femme te prend la tête? Bon, attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ouh là là, avant de la fracasser, peut-être, ah oui, elle est venue porter plainte parce que tu l'as fracassée. Bon, qu'est-ce qu'on va faire tout ça? Pauvre Moïse, vous voyez? Des tas d'histoires, des tas d'affaires où la vie des gens et leurs difficultés de tous les jours et leurs difficultés intérieures du cœur viennent sur le tapis. Et ça, ce sont des choses, voilà, quand on travaille avec de l'humain, on absorbe, on encaisse, et donc ce sont les professions les plus fragiles à cet égard-là. Alors, Moïse, son beau-père l'avertit. Et lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, il faut que tu puisses rester dans la charge que tu es capable de porter. Il lui dit, non seulement il peut y avoir des conséquences néfastes pour toi, parce que tu vas craquer et après tu vas mettre un sacré moment à t'en remettre, mais il dit, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Ce n'est pas juste que Moïse va s'épuiser, il va épuiser les autres. Parce qu'en fait, évidemment, comme la charge est trop lourde et comme en fait, il y a du travail pour 10 et on est tout seul, il y a des gestions mentales, relationnelles. Là, chez Moïse, c'était même pour 1000 et plus. Il n'est pas capable. L'être humain n'est pas fait pour ça. Et donc, il dit, mais non seulement toi, tu vas t'épuiser, mais tu vas faire naître de l'épuisement chez les autres, tu vas faire naître de l'irritation, de l'agacement chez les autres, parce qu'ils auront des attentes que tu, de toute façon, tu n'es pas capable de répondre à leurs attentes, ce n'est pas possible. Mais puisque ils font la queue, et les gens faisaient la queue du matin jusqu'au soir, et puis ça commençait à râler, imaginez le gars qui a fait la queue toute la journée, c'est comme, à un certain moment, à Pôle emploi, peut-être, ça peut parler à Jean-Denis. Et puis, vous arrivez, il reste une personne ou deux devant vous, on dit, ah, désolé, c'est l'heure, ça ferme. Hein? Et il y a des gens, sans doute, qui avaient fait la queue depuis un moment, et puis, il y a un moment, ben non, le soleil est tombé, Moïse va se coucher. Ou que sais-je? Bon, ben, je reviendrai demain. Et les gens vont s'épuiser parce que vous imaginez plusieurs millions de personnes. Et Moïse tâche de s'intéresser à chacun, à chacune, parce qu'il les aime, parce qu'il a à cœur ce fardeau, parce qu'il voudrait pouvoir. Mais il ne peut pas. Et ça va épuiser et agacer les gens. Et donc, il doit reconnaître ses limites, des limites qui vont d'autant plus grandir qu'il récupère sa famille, Séphora et les deux garçons, et qu'il va avoir encore moins de temps que ce qu'il en avait. Bien que Dieu soit avec lui, Moïse n'est pas Dieu. Dieu, lui, il peut prêter une oreille attentive à chacun d'entre nous. Dieu est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il peut tout faire. Dieu est capable d'occuper cette place-là. Et on le loue pour cela. Mais Moïse n'est pas Dieu. Il est un homme avec des limites normales. Alors chacun a des limites différentes. Chacun. Voilà, y a des gens qui peuvent pour soulever 100 kilos, il y en a qui peuvent n'en soulever que 20. Qu'importe. Mais à un moment, il y a une limite à ce qu'on peut soulever. Et Moïse n'est pas donc ce frérot capable de faire l'infaisable. Il va falloir qu'il le dise au peuple. Et que le peuple ne le prennent pas non plus, n'attendent pas de lui qu'il soit celui qui est capable de tout faire, même ce qui est infaisable. Et donc, le conseil du beau-père de Moïse, eh bien, c'est de déléguer, c'est de se faire aider. Alors, quelle est la disposition ici? Il dit, établis des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. C'est une disposition très intéressante. Parce qu'elle montre des cercles de proximité différents. Des cercles de proximité qui s'élargissent. Chef de 10. Ça commence par chef de 10. Ça veut dire quoi? C'est peut-être 10 personnes ou 10 familles. C'est 10 entités qui vivent quelque chose ensemble. Par exemple, dans notre église, ça peut être un couple. Gilbert et Annie, ça compte pour un. Martine et Jean-Paul, ça compte pour deux. Famille Duclé, même s'ils sont cinq, ça compte pour un. Vous voyez? Ça fait un, deux, trois. Et puis des personnes seules. Nicole, Daniel, Marité, Jacqueline, que je vois à l'écran, voilà, qui ont chacun leur vie, leur contexte, leurs défis, leurs problèmes, leur travail, leurs actions, leur vie spirituelle. Et donc, il y a là ce chef de 10, pourquoi? Parce que ça nous renseigne sur le fait, alors c'est très intéressant, vous imaginez Moïse qui gérait tout et qui s'occupait de tout le monde, on est en train de passer à des chefs de 10. C'est pas beaucoup 10, hein? 10 au maximum, peut-être ça représentait 50 personnes avec les enfants et les conjoints, hein, 10 entités, mais qui chacune a sa vie, ses problèmes, comme je le disais. Pourquoi 10? Mais parce que ça permet d'avoir une relation proche, un suivi proche, c'est sans doute, le Seigneur nous montre au travers de cela que nous avons une limite chacun